Eh bien ça y est, nous y sommes à ce 1er octobre 2015. Cette fois-ci c'est vrai, cette fois-ci les couleurs sont là dans nos arbres. Cette fois-ci nous avons retrouvé le ciel bleu, du moins du côté de Montréal. J'espère qu'il en est de même pour vous dans votre coin de pays. Et cette fois-ci c'est vrai aussi, c'est l'émission, le magazine devrais-je dire, Les Voix de Service qui commence sur Canal M avec Clotilde Seille et plein de voix de service au micro. Alors aujourd'hui, bien sûr, dans la première demi-heure, comme je le fais toujours, je vais éplucher, j'ai déjà épluché pour vous deux quotidiens de Montréal, soit Le Devoir et Le Journal de Montréal. Au milieu, il y aura la nouvelle virale présentée par Christiane Campagna. Et dans quelques secondes, je vais me tourner vers Rémi Hermoso pour lui demander ce que ça évoque ce 1er octobre. Alors Rémi, 1er octobre, est-ce que...
Allô, Clotilde.
Allô, comment vas-tu?
Ça va et toi?
Comment allez-vous? Comment vas-tu, vous? Comment vous allez-tu?
Vous-tu, allez-vous bien?
D'accord. Alors, en ce 1er octobre, cette date marque quelques anniversaires. Est-ce que c'est une journée d'abord spéciale aujourd'hui ou pas?
C'est beaucoup de journées spéciales, c'est beaucoup d'anniversaires, c'est beaucoup de choses. J'ai 3 feuilles aujourd'hui. Fait que je vais faire une petite sélection là-dedans.
Oui, d'accord, parce qu'on n'a on a pas beaucoup de temps quand même. Non, c'est ça.
Mais donc, nous fêtons les Saintes Thérèse et les Saints Turiel aujourd'hui.
Ok, bonne fête, Thérèse.
Bonne fête, Turiel. Bonne fête. C'est la journée mondiale de l'urticaire, la journée internationale des personnes âgées.
Ah okay, oui?
Bonne journée internationale
aux personnes
âgées.
Ah oui.
Oh. La journée mondiale du chocolat.
Oh,
intéressant. La journée internationale de la musique.
Hein?
Puis la journée mondiale du végétarisme.
Wow.
Beaucoup de choses en même temps.
Ça fait drôle d'associer chocolat et végétarisme. Ah, ben quoi que non, de toute façon.
C'est du cacao.
Le cacao, c'est très végétal. Mais la journée internationale de la musique, ça me surprend. C'est pas associé à la journée de la musique au mois de juin, ça?
Ouais, c'est ça. Il y a la fête de la musique que je connais qui est ici, en France, c'est le 21 juin. Ici, je
sais
pas.
Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, j'en sais rien du tout. Mais sinon, est-ce qu'il y a des gens qui sont nés un 1er octobre?
Ben, c'est pas des gens, c'est quelqu'un. C'est la NASA.
Ok, la NASA.
Ça fait pas longtemps que je suis réveillé.
Oui, non, mais je vois bien ça.
La NASA a été créée le 1er octobre 1958. Puis il n'y a pas longtemps, elle trouvait de l'eau sur Mars.
Mesdames et messieurs, d'ailleurs, il est en pyjama et il a encore la brosse à dents dans la bouche. Alors, c'est vous dire. Non, mais.
C'était Henry Ford proposait le premier modèle de la Ford T à 850 $ à l'époque.
Changement de papier.
Ils nous ont quitté un 1er octobre. André Vigée, l'ancien champion québécois d'athlétisme en fauteuil roulant.
Ah oui. Ah, ouais. Intéressant. Ok.
Rechangement de feuille.
Il est d'un naturel renversant, ce petit Rémi.
Qui sont nés un 1er octobre, on a le compositeur français Paul Dukas, le pianiste américain Vladimir Horowitz, le physicien autrichien Otto Frisch, l'acteur Walter Matthau, Matushinskayaski.
Matthau, c'est celui qui jouait dans le film de Wim Wenders. En tout cas, bref, est-ce que c'est Les Anges du Désir? En tout cas, écoutez, là, j'ai un petit blanc de mémoire, mais je le revois très bien avec ses petites ailes derrière, comme ça, assis sur un monument. Bon, bah, écoutez, Rémi, c'est bien, bravo, beau travail, 3 pages.
Merci. Alors, être honnête, c'est Mathieu qui me les a préparées ce matin.
Ah bon, d'accord. Alors, pour demain, vous me copierez « Je n'arrive pas en pyjama avec la brosse à dents dans la bouche ». Non, c'est pas vrai. Il est tout habillé, tout beau, tout propre. Merci beaucoup, Rémi.
Merci.
Alors, la première une que je vais éplucher ce matin pour vous, tiens, c'est moi qui ai fait tomber mes feuilles maintenant, c'est Le Devoir. Alors, Lise Thibault est condamnée à 18 mois de prison. Évidemment, ça fait la une de tous les quotidiens ce matin. Compression, moins de théâtre pour les élèves. Isabelle Porter écrit que les coupes en éducation et la mobilisation syndicale entraînent une baisse notable des réservations de groupes scolaires dans les théâtres jeunes publics. Cri du cœur contre ces coupes-là en éducation. D'ailleurs, on voit une photo et en légende à cette photo, des milliers d'enseignants et de parents ont pris d'assaut les rues de Montréal mercredi pour dénoncer l'impact des compressions du gouvernement Couillard dans le monde de l'éducation. Il y a d'ailleurs à ce sujet un éditorial de José Boileau dont je vais vous lire quelques extraits dans quelques minutes. Sinon, élection fédérale, le NPD redirige ses flèches vers Justin Trudeau. Frappe en Syrie, incertitude sur les réelles visées russes et militarisation de la police, neutraliser la contestation. Afin de jeter un nouvel éclairage sur la guerre que la police livrerait aux manifestants en Amérique du Nord, la professeure de sociologie à l'Université York de Toronto, Leslie G. Wood, vient présenter son nouvel ouvrage « Mater la meute, la militarisation de la gestion policière des manifestations ». Elle vient présenter cela aujourd'hui, en ce jeudi, à Montréal. Également dans Le Devoir, aujourd'hui, cette nouvelle d'actualité qui nous dit que le milieu communautaire crie famine. Et d'ailleurs, une grève est prévue les 2 et 3 novembre. Oui, il n'y a pas que le monde de l'éducation qui subit des coupures. Environ 200 représentants d'organismes communautaires ont tenté hier matin, de bloquer l'entrée du ministère du Travail à Québec. Ils réclament beaucoup plus de moyens et dénoncent les coupes des derniers mois. Les gens arrivent chez nous avec une détresse psychologique de plus en plus grande et un appauvrissement accéléré. Chez les organismes en santé mentale, les listes d'attente s'allongent, à déplorer la porte-parole Vicky Brazo. Les manifestants provenaient des quatre coins du Québec et représentaient 3300 des 4000 organismes communautaires du territoire, signale-t-elle. C'est énorme. En plus de dénoncer les coupes du gouvernement, ils craignent un non-renouvellement de leur financement qui tombe à échéance dans 6 mois. Les 300 organismes de défense de droits réclament que leur enveloppe passe de 16 à 40 millions de dollars par an. Quand on lui fait remarquer que ça semble beaucoup, Mme Brazo répond que leur budget n'a pas été indexé depuis au moins 14 ans. Alors, l'éditorial ce matin de Mme José Boileau, l'école étouffe, mais avant, je voudrais quand même vous décrire la caricature de Garnot dans Le Devoir, puisque c'est là que je suis, 18 mois de prison pour Lise Thibault. Nous sommes dans la prison, évidemment, c'est un peu chenu dans cette cellule. Mme Thibault est à table, elle est assise sur son fauteuil roulant et il y a une garde qui a l'air un peu plus infirmière que garde, qui lui présente un café et une toast. Et Mme Lise Thibault qui lui dit « Non, je ne vais pas prendre de pain, je vais prendre de la brioche, s'il vous plaît. » Bon. Alors, l'école étouffe, nous dit José Boileau dans son éditorial de ce matin. Elle écrit « Quand les parents sont aux côtés des professeurs, quand les commissions scolaires choisissent de fermer les écoles un jour de grève, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne tourne vraiment plus rond dans le monde scolaire. Rationnellement, il serait sage, dit Mme Boileau, dans l'actuel bras de fer qui oppose les enseignants au gouvernement, de distinguer les négociations des conventions collectives de l'impact beaucoup plus large de l'austérité. Ce gouvernement ne s'intéresse pas à l'éducation telle qu'elle se porte dans la vraie vie, préférant, comme on l'a vu ce week-end dernier, le débat d'idées plutôt que celui qui se vit sur le terrain où les professeurs sont fatigués de tout ce qu'on leur demande de récupérer avec un soutien qui n'est jamais acquis en dépit des sommes investies en éducation ces dernières années. Par contre, dit-elle, le nombre d'élèves par classe, notamment... Ah oui, c'est ça, parce que le gouvernement veut maintenant que dans le cadre des 40 heures que devront faire les professeurs, les enseignants, 35 soient faites à l'école. Il n'y a pas là de quoi déchirer sa chemise, dit José Boileau. Par contre, le nombre d'élèves par classe, notamment ceux qui ont des difficultés d'apprentissage, est lui un enjeu de société qui dépasse la négociation classique. Québec, à l'époque du gouvernement Charest, avait finalement été convaincu de diminuer les ratios, un véritable gain pour la qualité de l'enseignement. Mais la logique comparable est revenue au galop. Cette hausse de la masse salariale n'a pas eu les résultats escomptés sur la réussite des élèves. On relevait des gestionnaires de l'enseignement, professeurs et élèves n'ayant pas été consultés. Nul n'a toutefois mesuré le souffle d'air que cela a permis dans les classes. Dans un univers scolaire plus hétéroclite que jamais, conclut Mme Boileau, il faut être loin du terrain. pour ne pas comprendre que deux élèves de plus ou de moins font une énorme différence. Les professeurs le vivent, les parents le savent, les élèves le subissent. Le gouvernement Couillard doit l'entendre. Dans le cahier consacré aux élections fédérales, bah le cahier, je dirais le passage considéré, qui se consacre aux élections fédérales dans le Devoir. Oh boy, difficile ce matin pour Seille. Il y a une chronique de Michel David qui s'appelle « Entre l'arbre et l'écorce ». Il est question, entre autres, de niqab. Déjà déstabilisé par le débat sur le niqab, écrit M. Michel David, Tom Mulcair devra vraisemblablement se défendre sur un autre front, celui de la langue, lors du cinquième et dernier débat télévisé entre les chefs de parti qui aura lieu demain soir. Gilles Duceppe accuse le chef du MPD de leurrer les Québécois quand il se dit prêt à étendre les dispositions de la loi 101 aux entreprises qui œuvrent au Québec dans des domaines de compétences fédérales. Ça, c'est par exemple les banques, les télécommunications, le transport aérien ou encore le transport interprovincial, ce qui touche quelques 1700 entreprises et 200 000 travailleurs. Le projet de loi C-315 que le député néo-démocrate de Trois-Rivières, Robert Aubin, avait présenté à la Chambre des communes en octobre 2011, proposait bel et bien une modification du Code canadien du travail qui aurait imposé l'utilisation du français dans ces entreprises, sans exclure pour autant celle d'une autre langue. Mais il comptait aussi une clause qui aurait permis au gouvernement fédéral d'exempter une entreprise qui en aurait fait la demande, d'une partie ou même de la totalité de ses dispositions. Et ce code volontaire aurait, à toute fin utile, rendu la loi inopérante, estime M. Duceppe, de sorte que le Bloc québécois avait voté contre le projet. En 2007, le Bloc avait plutôt présenté un projet de loi, le C-482, qui aurait modifié non seulement le Code canadien du travail, sans possibilité d'exemption, mais aussi la loi sur les langues officielles, pour reconnaître que le français est la langue officielle du Québec et la langue commune au Québec. Il aurait également engagé le gouvernement fédéral à ne pas entraver l'application de la langue française sur l'ensemble du territoire. La dernière chose dont M. Mulcair doit avoir envie ces jours-ci, c'est d'être entraîné dans un débat sur la langue, dit encore M. David dans Le Devoir. Comment convaincre les électeurs francophones déjà échaudés par la position sur le niqab que son engagement envers le français n'est pas de la poudre aux yeux, comme le prétend M. Duceppe, sans précipiter les anglophones dans les bras des libéraux qui vont se faire un plaisir de prendre leur défense. À trop vouloir ménager la chèvre et le chou, on finit par se retrouver pris entre l'arbre et l'écorce. Bonjour Christiane.
Bonjour Clotilde.
Alors ce matin, avec qu'est-ce qui fait bouger la toile?
Je vous parle plutôt d'hier après-midi, quand on a connu la sentence de Lise Thibault. Il y a une confusion qui s'est installée très rapidement sur les médias sociaux, entre autres sur Twitter, à cause de la confusion qu'on fait souvent, ou de la définition très précise qu'ont les termes prison et pénitencier chez nous. Bon, je ne parle pas des définitions du dictionnaire, je parle des définitions légal ici.
Ouais, oui.
Parce que quand a commencé à circuler Lise Dion évite le pénitence. Lise Dion, je m'excuse pour Lise Dion.
Je n'ai pas une joke.
Lise Thibault évite le pénitencier. Mm-hmm. Là, les gens se sont mis à transmettre évite la prison. Et là, tout le monde était bien déçu, tout ça. On trouvait qu'elle s'en sortait trop bien, jusqu'à ce qu'on apprenne qu'en fait, elle allait faire 18 mois de prison. Et justement, il y a un journaliste de la presse qui a écrit la fois où Twitter a découvert qu'une prison et un pénitencier, c'est pas la même chose.
Mais vous, est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre une prison et un... Bon, parce que vous attendiez bien que je vous pose la question.
Ah oui, je le dis d'autant plus que ça invalide dans un sens quelque chose qui est très populaire sur les médias sociaux depuis hier, c'est tous ces montages où on la met dans Unité 9 à côté des comédiennes. Évidemment, c'est le genre de blague qui circule le plus, mais ça marche pas avec le fait qu'elle s'en va en prison plutôt qu'au pénitencier. Parce que voyez-vous, la prison désigne un établissement correctionnel regroupant des personnes qui ont à purger une peine d'emprisonnement de 2 ans moins un jour. C'est pour ça qu'on entend souvent ça dans les sentences, le moins un jour. Il est très important parce que ça marque la ligne entre vous allez dans une prison ou au pénitencier.
OK.
En prison, on retrouve aussi les prévenus, c'est-à-dire les gens qui sont en attente de procès.
Oui, c'est ça.
Tandis que dans les pénitenciers, et les prisons relèvent du gouvernement provincial.
OK, important.
Dans les pénitenciers, ce sont toutes les peines de 2 ans et plus, et c'est géré par le fédéral.
OK, par exemple, à Commonsville, c'est un pénitencier.
Faudrait que je vérifie.
OK, d'accord, excusez-moi, je ne voulais vraiment pas vous mettre dans... C'est plus moi en ce moment qui ai la tête tellement dans les cantons tout le temps que je me posais la question.
Alors... Donc, dernière heure, Lise Thibault sera dans la prochaine saison d'Unité 9, comme écrit M. Sigil, ça ne marche pas. Mais dans ce sens, ça marche quand même, puisque là, au bout du compte, c'est tout le même monde qui gère tout ça. Gendron, qui cite le criminaliste Jean-Claude Hébert, qui a dit « Lise Thibault va être hébergée ce soir aux frais de la reine. » C'est pas ça qu'elle voulait. Et Nicolas Boisvert a dit « J'imagine que Lise Thibault ne lira pas le menu de la prison comme le citoyen ordinaire, mais comme un chef d'État lit le menu de la prison. »
En avez-vous d'autres?
Ben, il y a des commentaires, évidemment.
Parce que j'aime ça rire avec vous, comme ça, moi, ça me fait rire tout ça. Non?
J'ai pas d'autres blagues. Ben, José Legault a dit c'est ce qui s'appelle une sentence royale.
Comme les
vieilles pubs de banque avec Jean Lapointe. Parlez-moi d'une banque royale. Pour les plus jeunes que moi, oubliez ça, ils connaissent pas ça.
Non, c'est vrai.
Et Daniel Lorrain qui dit, la sentence n'est jamais assez ferme quand ce n'est pas toi qui la purge, parce qu'il y a toujours des gens qui trouvent que ce n'est pas assez, mais qui dit, sans minimiser les faits, il reste que certains l'ont regardé faire en étant complaisant.
Oui. Enfin, bon, allez, on ne fera pas de commentaires, nous ne sommes pas là pour là, surtout qu'on a le boss qui nous regarde, alors ce serait quand même dommage de faire un petit commentaire tout de suite. Merci beaucoup, Christiane. Je vous retrouve un peu plus tard, au moment du bulletin. C'est-à-dire à midi moins le quart, c'est un rendez-vous. Alors, parlons-en justement de Lise Thibault ce matin. Évidemment, elle fait la une de tous les journaux, je vous le disais, notamment la une du journal de Montréal. Je vais y revenir dans quelques secondes à Mme Thibault juste avant. Et regardons ce que cette une nous dit. Elle nous dit que Marcel Aubut est dans la tourmente. Il y a une plainte pour harcèlement sexuel qui a été déposée contre lui. Et puis, du coup, il y a une autre femme qui s'est manifestée très rapidement, qui n'avait jamais dit quoi que ce soit parce que, elle n'osait pas. Mais là, elle dit, si ça sort, allons-y. Oh, il est dans l'eau chaude un petit peu, le monsieur, je vous en parle également. Et ce gros titre à la une du journal de Montréal, chauffeur, conducteur, attention, 51 nouvelles trappes à tickets, à contravention dans la grande région de Montréal. Et on nous présente ici la carte des endroits où on veut vous attraper, nous attraper. Je vous le dis tout de suite, c'est surtout en banlieue, en proche banlieue que ça se passe. Laval, Montérégie, sur Tachereau, tout ça. Alors, ça ne regarde pas bien. Levez le pied. Alors, on va commencer par regarder toutes ces petites nouvelles-là. D'abord, M. Marcel Aubut, sous enquête, je vous le disais, il faut quand même rappeler qui est M. Marcel Aubut, et c'est ce qu'ils font dans le journal de Montréal. Il est l'ancien président et copropriétaire des Nordiques de Québec. Il a été gouverneur de la LNH pendant 16 ans. Décidément, j'ai vraiment un maudit petit chat. Regarde, mets-moi un petit peu de musique, mon petit loup, parce que je vais me dégager un petit peu les mains. Voilà, le chat n'était pas invité dans cet article au sujet de M. Aubut. M. Aubut qui est présent aux 12 dernières éditions des Jeux Olympiques, qui est à l'origine de la Fondation des Nordiques, qui a été intronisé au Panthéon des sports canadiens et au Panthéon des sports du Québec, qui a reçu la médaille du Jubilé de diamant de la reine Élisabeth II, officier de l'Ordre du Canada, officier de l'Ordre national du Québec, avocat émérite du barreau du Québec. Bref, évidemment, quand on est accusé pour harcèlement sexuel, mettons que ça peut faire un petit peu tâche dans un tel tableau jusqu'à présent. Irréprochable. Alors pour l'instant, il est sous enquête et il quitte temporairement ses fonctions de président à cause de cette plainte de harcèlement sexuel contre lui. Alors voilà l'autre sujet, puisque ça fait également la une du journal de Montréal. Ce sont les banlieusards qui vont être ciblés par les radars photos. Écoutez bien, si vous habitez la région de Lanaudière, entre autres l'Épiphanie, Repentigny, Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Jean-de-Mata, la région de Laval, dans le coin du boulevard Curé-Labelle, boulevard de la Concorde, boulevard Saint-Martin, l'autoroute 15, la région des Laurentides, vers Blainville, La Chute, Mirabel, Sainte-Agathe-des-Monts, Saint-Lin-des-Laurentides, la Montérégie, Marieville, ou oui, la route 112, entre autres, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Césaire, Saint-Constant, Saint-Cyprien, toutes ces régions-là, la rive sud, le boulevard Taschereau, Cousineau, les boulevards Gaëtan Boucher, Wilfrid Laurier, et lesquels aussi, et boulevard Fernand Lafontaine, ainsi que la région Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale. Faites attention, il y a 51 nouveaux points d'attrape Nigo pour se faire avoir et pour recevoir des tickets. C'est ce qu'on nous apprend également ce matin. Bah, dans la plupart des journaux, mais je trouvais que le dossier était un peu plus fouillé dans le journal de Montréal, on nous donne vraiment les points les plus chauds, les plus à éviter. C'est aussi dans le journal de Montréal que j'ai trouvé ce papier signé Anne-Marie Provost avec la photo de Laurence Parent, qui est une personne à mobilité réduite, Laurence, que nous connaissons bien ici sur Canal M. Le journal nous fait part de ceci. Des personnes à mobilité réduite veulent des rabais à la STM. Des usagers à mobilité réduite de la Société de transport de Montréal réclament un tarif réduit parce qu'ils ont moins accès aux services. Cette position suscite toutefois de vifs débats parmi les personnes handicapée. Laurence Parent en a assez de payer le même prix que tout le monde alors qu'elle n'a pas accès à tout le réseau et aux mêmes services. Elle pense que les personnes handicapées devraient bénéficier d'un tarif spécial, comme c'est le cas à New York d'ailleurs, où ils paient la moitié du tarif régulier. Il y a 9 ascenseurs sur 68 stations de métro, rappelle Laurence, et les autobus avec des rampes arrière ont beaucoup de défectuosité, souligne celle qui est candidate au doctorat à l'Université Concordia. Pour aller à l'université, elle débarque généralement à Berry-UQAM où il y a un ascenseur et elle fait le reste en roulant. D'autres pensent toutefois qu'un tarif spécial n'est pas conséquent si les personnes handicapées veulent être traitées comme tout le monde. Des personnes handicapées préfèrent l'inclusion au privilège. Elles veulent être comme tout le monde et payer le prix normal, affirme Christelle Labrecq-Dupuis, l'agente de concertation et de projet au regroupement des usagers du transport adapté et accessible de l'île de Montréal. L'organisme prend plutôt position en faveur de la tarification sociale, un tarif réduit basé sur le revenu des gens et qui ne vise pas spécifiquement les usagers à mobilité réduite. Du côté du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, le RAPLIC, que nous connaissons bien ici aussi, le débat divise le conseil d'administration qui n'a pas encore pris position. Ça peut nous mettre dans un ghetto. Je n'ai pas envie qu'on nous pointe du doigt en disant « pauvre handicapé », affirme Linda Gauthier, la présidente du RAPLIC. Elle ajoute qu'il s'agit de sa position personnelle et que d'autres membres sont en faveur d'un tarif réduit. Il y a cette photo incroyable aussi en page 28 du journal de Montréal d'un chaton qui est en fauteuil roulant. Non, et là je le vois, évidemment c'est un petit côté adorable avec ses petits trous, mais voilà, je vous explique. Il s'appelle Cassidy. C'est un chaton sans pattes arrière qui vient tout juste de faire ses premiers pas dans un petit fauteuil roulant qui a été spécialement conçu pour lui. Il est né d'une chatte sauvage il y a environ 4 mois. Il aurait perdu ses deux pattes sous les genoux peu de temps après, on ne sait pas comment. Le chaton a miraculeusement survécu 9 semaines dehors jusqu'à ce qu'il soit aperçu par les propriétaires du terrain d'où il vient. Il a été sauvé, il a été hébergé par le refuge Tiny Kittens en Colombie-Britannique. Et là, le chaton, aujourd'hui, est en très bonne santé. Et il peut désormais se promener partout grâce à son petit fauteuil roulant qui a été conçu et donné par Andrew Phillips de Handicapped Pets Canada. C'est génial. Et Madame Bombardier, aujourd'hui, qui s'exprime dans le Journal de Montréal, puisqu'on est jeudi, nous parle d'une jeune femme qui a été esclave de Daesh. Esclave de Daesh, c'est le titre d'un ouvrage qui est publié aujourd'hui aux éditions Fayard, qui nous plonge au cœur de l'horreur que vivent les femmes qui sont kidnappées et qui servent d'esclaves aux djihadistes. Et celle qui raconte ces mois de captivité s'appelle Jinan. Elle appartient à la minorité yézidi, qui est une des minorités religieuses cibles de Daesh. Daesh, hein, c'est l'autre nom pour dire l'État islamique. Les femmes yézidis sont appréciées des fous de Dieu, en particulier à cause de leurs yeux bleus et leur dentition éclatante. C'est pourquoi leur prix est élevé sur le marché aux esclaves. Une fille de 9 ans se vend 160 euros et une femme de 30 à 40 ans, 60 euros. Autrement dit, la gamine de 9 ans se vend 160 euros. En tout cas. Jinan n'a que 18 ans, dit Madame Bombardier, mais elle en paraît beaucoup plus. Elle est une des rares à avoir accepté de témoigner publiquement. Elle raconte avec retenue, mais clarté, ce qu'elle a subi aux mains des djihadistes de Daesh, aussi répugnants que brutaux, enfermés avec d'autres yézidis dans une résidence prison au milieu du désert près de la frontière syrienne. Jinan a vécu dans l'asservissement, mais elle a échappé au viol en évitant de se laver durant ces mois et en se recouvrant constamment la figure de boue. Mais la majorité des jeunes femmes détenues avec elle subissaient les outrages et la torture des deux dirigeants de leur prison, un imam et un policier. Ce témoignage de première main me permet de comprendre davantage ce qui habite ces djihadistes qui ne pourront jamais être des interlocuteurs pour nos pays à la recherche de solutions autres que militaires à leur guerre démoniaque. Jinan, grâce à son admirable courage, nous ouvre les portes de l'enfer de cet État islamique, risquant ainsi d'être de nouveau la cible de ses bourreaux. Car elle a réussi à s'enfuir après 90 jours de captivité et à retourner dans sa petite ville au nord de l'Irak. Elle est venue faire la promotion de son livre en France. Elle a refusé l'asile politique qu'elle aurait pu obtenir, car elle a rencontré des journalistes et plusieurs politiciens, dont des ministres. Elle a même été reçue par le président Hollande, qui lui a offert de rester en France. « Je dois continuer de me battre avec les miens dans mon pays », a-t-elle déclaré. Ouais, donc je vous rappelle le titre de ce livre dont nous parlait ce matin Madame Bombardier, Esclave de Daesh. Et c'est écrit par Jinan, J-I-N-A-N.
de la pluie, je pleure au torrent qu'en voyant la souffrance d'autrui.
Trop de choses à la fois se font des routes dans ma tête, alors je ne sais plus rien.
Sauf que pour toi, je creuserai de nouveaux sillons, mélodie de l'univers.
Oh, j'aime ça, qu'on me dise « je t'aime » comme ça pour finir. Ben merci, mon petit loup, qui c'est qui chantait ça? Qui c'est qui a dit ça comme ça?
C'est Doba Caracol,
oui.
Qui chantait
Doba
étrange.
Caracol.
Oui, mais
oh.
C'est à moi qu'elle disait ça. Ouais.
Sortez.
Immédiatement.
Je suis très heureuse d'accueillir maintenant Yvan Deslauriers.
Bonjour.
Christine. Voyons, la Boucard, je m'excuse, voilà. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai reçu une Christine Pinard récemment, puis tu sais, Pinard, Boucard, voilà. Pardon, voilà. Christine. Et puis, notre amie Marie Lalande.
Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Comment allez-vous?
Très bien.
La
bien.
Semaine s'est bien passée?
Oui.
À pas témoin un petit peu, de quoi allez-vous?
Alors moi,
allez-vous, pardon, nous parler, je failli dire le contraire. Oui,
moi,
Marie.
Moi, je parle des enfants qui pourraient être une source d'inspiration pour les gens d'affaires. D'abord, et ensuite, différentes raisons d'être.
Attendez, parce que c'est vachement intéressant, ça.
Oui.
Des enfants qui pourraient être une source d'inspiration pour des gens d'affaires.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, je ne vous en dis pas plus.
Oui, 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 mais c'est bien. Oui. C'est un sujet rare.
On prend une posture différente.
Bon, vous qui adorez les enfants, vous en avez combien d'enfants?
Deux.
Deux, mais ils sont grands.
Qui ne sont plus des enfants maintenant.
OK.
Mais qui sont toujours nos fils.
Bien, oui. Bien sûr. Et oui. Vous avez des petits-enfants?
Non, pas encore.
Oh!
Pas encore.
Ils n'ont pas retrouvé la page du manuel?
Non, mais ils sont jeunes encore.
Ah, ils sont jeunes!
Il y a différentes explications à ça.
Ils sont jeunes.
Ils sont jeunes.
Ben, à 22 et 19, on peut...
Ah, ben oui, on peut se calmer un petit peu.
On a
oui. Alors, donc...
Et dans un deuxième temps, donc, les différentes raisons d'être des jardins zoologiques en 2015.
Ah oui, intéressant. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Yvan?
De mon côté, je cherchais pour des articles autour du vélo. Et je suis tombé sur un article vraiment intéressant sur des gens de tous les jours qui ont eu à faire face à une certaine forme d'adversité dans leur vie.
Okay.
Et qui ont choisi de faire des activités physiques. Et ça a transformé un petit peu la façon dont ils voyaient les choses.
Oh.
Alors, ils ont passé par-dessus des obstacles physiques, vraiment,
okay.
Pour en arriver à des résultats étonnants.
Oh.
Alors ça, c'est le premier.
Oui.
Puis l'autre, ben, je reviens avec mon piqué Souban, mais d'un point de vue fiscal et d'un point de vue social.
D'accord. Christine Boucard.
Il sera question de photographie, pratiquement sur toute l'heure. Pour ma part, en ce qui concerne,
d'accord.
Je ne vais pas monopoliser. On va commencer par les bouquins. Et ensuite, on va parler de les bouquins, c'est-à-dire qu'il y a une campagne pour un bouquin, je ne vous en dis pas plus, ça se passe à Montréal. On va parler également du fameux prix qu'a remporté, enfin plutôt d'une photographe qui a remporté le prix Dorothy Lange Paul Taylor, Michel Huneau, c'est un photographe montréalais. On va également faire un petit clin d'œil à Yann Arthus Bertrand,
oui.
Pardon. Avec son film Human, mais voilà, c'est en quelques mots.
Très beau programme, merci beaucoup. Bah non, on va décider qui commence, qui fait quoi. Alors on va se mettre.
Un petit peu.
Et là, je voudrais qu'il y ait une caméra à ce moment-là, parce que tout le monde fait toi, non, moi, non, toi, non, toi. C'est tellement
cool. Et c'est moi qui ai gagné.
Vous avez gagné le gros lot, Marie voilà. Lalande. Alors, c'est à vous, on vous
alors,
écoute.
Alors, je vous parle d'un article dont le titre est « Les enfants, ces formidables mentors ». C'est un texte de Daniel Henkel. Tout le monde connaît Daniel
ben oui,
Henkel.
La femme d'affaires.
Oui. Okay. Et ce texte a été publié sur le site lesaffaires.com le 5 septembre dernier. Alors voilà ce qu'elle écrit. Nous partageons notre quotidien avec nos enfants. Nous jouons avec eux. Mm-hmm. Nous les guidons au mieux de nos connaissances. Nous les aimons. Mais est-ce que l'on se rend vraiment compte de l'apport extraordinaire que peut avoir leur vision sur notre vie adulte? Et si on prenait le temps de les regarder, les interroger, d'observer leurs réactions? Mm-hmm. Il peut sembler paradoxal de rapprocher la candeur des enfants de la rigueur, souvent impitoyable, des affaires. Daniel Henkel est toutefois convaincu que les plus jeunes détiennent des réflexes naturels qui pourraient assurément nous inspirer au quotidien et aiguiser nos compétences en tant que dirigeants et entrepreneurs. C'est
intéressant.
Sa posture.
Oui, 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 intéressant.
Les enfants ne craignent pas la défaite. Ils foncent et qu'importe les chutes et les égratignures, ils se relèvent et en tire une leçon précieuse. Quelle belle inspiration que cet accueil de l'inconnu. Comme entrepreneur, on reconnaît aussi l'importance de l'audace. Le risque est inextricablement lié au monde des affaires. Pourtant, on voit trop souvent les gestionnaires compétents et des dirigeants talentueux figés au bord du précipice, incapables de sauter de l'autre côté. La peur les paralyse. Que ce soit en classe ou au travail, on nous a appris que chaque erreur nous ferait subir des conséquences désastreuses. Comment peut-on espérer sortir des sentiers battus si on tremble devant le spectre de l'échec? Les erreurs ne sont pas des fatalités. Ça, c'est comme un mantra, je me
oui,
répète
oui,
ça.
Oui, oui, oui. Les erreurs ne sont pas des fatalités.
Pas,
les
c'est
erreurs
ça,
ne
tout
sont
à fait.
Pas...
Oui, c'est ça. Les enfants le savent. Certaines entreprises l'ont compris aussi. Procter & Gamble, vous m'excuserez pour l'accent, valorise les risques risqués en récompensant...
Les risques risqués, vous
oui, écoute bien. En récompensant, par exemple, une vice-présidente qui, pour démontrer la qualité de sa litière pour chat, avait souligné à d'importants clients qu'aucun d'entre eux n'avait remarqué la boîte totalement inodore qui était restée sous la table durant toute la réunion. C'est assez intéressant. Mm-hmm. Amazon lutte contre l'aversion au risque en pratiquant la politique du oui institutionnel. Quand un gestionnaire soumet une idée, son supérieur doit spontanément l'accepter. S'il insiste pour décliner, il doit expliquer les raisons de son refus dans une argumentation de 2 pages. Mm-hmm. Même approche pour Adobe qui remet aux employés une carte de crédit prépayée de 1 000 $ afin qu'ils puissent expérimenter une idée de leur choix au profit de l'entreprise. Ils ont ensuite 45 jours pour concrétiser leur projet.
Je ne comprends pas. Là, qu'est-ce qu'ils en font de cette carte de crédit?
Alors, ils peuvent proposer un projet qui provient d'une idée au profit de l'entreprise. Donc, on exploite quelque chose, un filon, qui rapporterait à l'entreprise, mais à partir d'argent qu'on leur donne.
Autrement dit, ils vont acheter quelque
chose. Ou ils font la promotion d'un produit ou d'une activité ou d'une idée qui serait... qui rendrait justice à l'entreprise.
Oui, mais qu'est-ce que vient faire la carte de crédit là-dedans?
Ben, ils peuvent dépenser des choses.
Ils peuvent
comme un budget de 1 000 $ pour exploiter cette idée-là, la mettre en valeur. Voilà.
OK, je comprends.
Les enfants sont des inventeurs nés.
Ça, c'est vrai.
Hein? Ah, c'est vrai. Plusieurs objets de notre quotidien sortent de l'imaginaire débridé des petits génies qui n'avaient pas encore terminé leurs études secondaires. Louis Braille a conçu son fameux système d'écriture à 15 ans. Alexander Bell,
À 15 ans.
Louis Braille,
il avait déjà...
Ah, oui.
On parle toujours des petits Mozart, mais on oublie toujours
les
autres.
On oublie les autres. Hein. Oui, mm-hmm. Mozart n'était pas seul.
Non, c'est ça.
Alexander Bell a inventé le téléphone à 18 ans. Quand même, moi je savais pas ça. Le popsicle, le cache-oreille, le trampoline et la planche à voile sont autant d'inventions créées par des enfants.
Ah oui?
Oui.
Ah oh, ben alors ça, j'aimerais faire des recherches.
Donc, Alexander là-dessus. Bell, il a inventé le téléphone
à 18 ans.
Puis depuis ce temps-là, les ados l'utilisent.
Et voilà, okay. C'est ça.
Ça même pourrait faire
avant 18 ans maintenant.
Ça pourrait faire l'objet d'un quiz pour enfants, ça.
Oui,
ah, non, c'est, oui c'est vrai.
Oui. Selon une étude neurologique américaine, les enfants passeraient plus du 2/3 de leur temps à imaginer des choses. À force de jongler entre la fiction et le réel, entre le rationnel et le fantastique, ils détectent souvent des possibilités qui nous échappent. Ici comme ailleurs, des entreprises de tous les secteurs et de toutes les tailles rivalisent d'ingéniosité pour favoriser cette créativité sans limite. Ils en font une priorité. Un exemple de ça, cet été, la firme technologique québécoise G-Soft prenait le pari de sortir ses troupes de leur zone de confort en ouvrant un bureau satellite en Espagne. Deux semaines par année, tous les développeurs et gestionnaires auront ainsi la chance de travailler dans cet appartement situé au centre-ville de Barcelone. Oui. On veut y aller. Une destination choisie par les 115 employés, inspirée par une culture d'entreprise qui mise sur le plaisir et l'innovation. Les équipes informelles, composées de 6 à 8 personnes, se déracineront, c'est ça l'enjeu, l'idée, à tour de rôle afin de réfléchir à des idées extraordinaires. Enfin, on sait que tout est à apprendre dans un autre pays, se retrouver dans la ville, faire ses emplettes au marché, commander un repas au restaurant. Pour fonctionner au quotidien et stimuler leur créativité, les employés devront poser un regard neuf sur chaque petite chose. Ils devront abandonner leurs acquis, leurs habitudes, afin de s'émerveiller, basculer sur le mode de l'exploration, le mode, par défaut, des enfants. Alors, les enfants sont une richesse vivante. Madame Henkel partage pleinement la philosophie de ce proverbe chinois. Elle est convaincue que la jeunesse peut nous enseigner autant que nous lui apprenons en retour. L'enrichissement, c'est un enrichissement mutuel. Et elle cite, en conclusion, Antoine de Saint-Exupéry, « Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. »
J'adore ce texte qui a été publié, je vous le rappelle, sur le site lesaffaires.com le 5 septembre dernier. Merci beaucoup, Marie Lalande, merci.
De rien.
On y va avec Yvan Deslauriers. On parle de vélo?
Oui.
Non, pas tout de suite.
Pas vraiment de vélo.
Piqué?
Ben, autour de. Non, okay. Oui, autour du vélo. Oui, oui. Piqué plus tard.
D'accord.
Alors, quand je cherchais justement des articles pour le vélo, je suis tombé sur ce dossier-là de Catherine Enfield qui était dans la section Pause oxygène dans la presse du 16 septembre. Et ça raconte quatre histoires. Je vais en toucher deux qui, m'ont allumé particulièrement. Dans une vie, il y a des moments charnières qui nous poussent à changer. Et on va regarder qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de deux personnes.
D'accord.
D'abord, Joanne Dubois, 41 ans. Puis elle s'est fait dire par son médecin de famille, « Il est peut-être temps que tu fasses quelque chose. » Puis ça l'a vexée. C'est vrai, elle avait pris du poids depuis un an, mais ni son corps ni son âme n'allaient bien à cette époque-là. Son médecin l'ignorait, mais Joanne se savait en dépression majeure.
OK.
Au fil des jours, elle a réalisé que son médecin avait peut-être raison, puis il fallait faire, entre guillemets, quelque chose. Mais elle ne voulait pas se lancer dans un autre régime, une autre diète, puis aller reprendre le poids un peu plus tard, puis etc. Alors, elle s'est dit, particulièrement pour ses enfants, je vais commencer à bouger. Et puis, elle a commencé par marcher dans son quartier, à Terrebonne, mais elle y allait toute seule, le soir, parce qu'elle craignait que les autres la voient. Elle avait peur du regard
elle
des autres.
Elle avait peur du regard des autres.
Et plus ça avançait, plus ça allait, plus elle était en forme, mieux elle mangeait, mieux elle se sentait de bonne humeur, plus elle avait le goût de sortir de la maison.
OK.
Puis là, elle s'est inscrite dans un gym. Puis là, elle a compris un peu comment ça marchait, un tapis roulant.
Oui.
Puis un soir, en 2010, 2 ans après sa rencontre avec son médecin, elle s'est faite un parcours de 10 km dans son quartier. Puis là, elle a pris des espadrilles, puis elle est allée courir. Puis là, elle est arrivée à la maison complètement crevée, mais complètement heureuse aussi.
Mais là, cette fois-ci, elle courait,
Oui, elle courait, elle ne marchait pas. Puis là, elle a ouvert son ordinateur, puis elle s'est inscrite au Marathon de Montréal. Au Marathon de Montréal. Puis là, son mari, il a dit, « Mais pourquoi tu ne t'inscris pas aux 10 km? »
Ben oui.
Puis là, elle a répondu, « Mais je viens de courir le 10 km. Ben pourquoi je m'inscrirais à ça? » Alors, elle s'est imprimée un plan d'entraînement sur Internet. Elle l'a suivi jusqu'au jour J, le 25 septembre 2011. Puis elle était radieuse arrivée au fil d'arrivée du 42 km au point où son mari a décidé de faire de l'exercice lui aussi.
C'est alors, contagieux.
J'ai cru qu'il venait. Mais au point qu'il ait décidé de quitter LVN, son enfant.
Ça aurait pu. Et ils font des triathlons maintenant.
Ah oui, les deux.
Oui.
Alors, un psychologue en performance nous dit que pour que quelque chose change, il faut avoir vraiment une raison externe à soi pour que ça marche. C'est soit les gens qui vont apprécier davantage ce qu'on fait ou une raison intrinsèque comme juste se sentir mieux dans sa peau. Puis là, avant que je vous parle de mon deuxième personne, on va écouter un peu de musique.
D'accord. Moi aussi, j'ai commencé à marcher. J'ai un appartement à Long. Alors, je vais du salon à la chambre, du salon à la chambre. Non, mais sérieusement.
Ça compte.
Non, mais sérieusement. Moi, je suis le genre de fille, à chaque fois que je me décide à faire du sport, la dernière fois, j'ai marché 100 mètres et au coin de la rue, je me suis fait une double entorse.
Oui, c'était
il y a un an juste et j'étais partie, moi, parce que c'est vrai que j'avais commencé à marcher, tout ça, puis je me suis dit, allez, hop, il fait beau, c'était au mois de septembre, je pars, là, plaf, allez.
Voilà.
Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, je n'ai jamais compris. Pardon, je vous laisse finir, mon ami, parce que, savez-vous que je vois l'heure tourner? Et j'ai très, très peur à ma camarade Christine qu'elle n'ait pas le temps. Est-ce que ça vous dérangerait si on abordait l'autre? Oui, parce qu'on aura un petit peu plus de temps, je suis sûre, dans la seconde demi-heure.
Tout à fait d'accord.
Vous nous gardez ce beau sujet-là en réserve.
Oui,
et je vais me tourner vers Christine Boucard qui va nous parler de photographie. Ça va bien, Christine?
Ça va parfaitement. Merci, Clotilde. Alors voilà, donc campagne pour un bouquin. Donc il s'agit d'une exposition qui est actuellement à la librairie Format. La librairie Format, elle est sur la rue Sainte-Catherine.
Ok.
Elle est à l'édifice 222 du centre-ville donc de Montréal, aux deux rues Sainte-Catherine, au troisième étage. C'est jusqu'au 18 octobre. C'est une petite librairie qui est dédiée à la photographie, essentiellement aux arts visuels.
Ah, oui.
Ce sont des livres, mais vous y trouvez de tout. C'est la caverne d'Ali Baba, du livre neuf, magnifique. Et l'exposition format, c'est quoi? C'est, comment dire, l'expo format, donc ça concerne toute la photographie, enfin tous les livres, tout ce qui est publié au Québec dans le domaine de la photographie, nous dit donc Jérôme Delgado dans le Devoir. Merci d'ailleurs Clotilde. Vous avez sorti l'article de vos tablettes matinales
la semaine dernière,
super. Et donc un livre photographique, c'est quoi? C'est un objet dont le récit passe par les images et par les images seulement, nous dit Jérôme Delgado. Bon, c'est sûr qu'il y a toujours des légendes qui sont souvent fort intéressantes. Alors, à l'instar, le livre photographique aborde une variété de sujets, on le sait, c'est ce que révèle cette exposition à format. Et pour Serge Allaire, l'historien de l'art qui est derrière cette aventure, la publication dont l'auteur est un photographe souffre malheureusement d'une mauvaise diffusion. Il faut savoir que le livre photographique est en essor, sauf au Québec. Alors, voilà, un petit appel à tous. Là. Les photographes, on a tous besoin de publier aussi, pas que sur les murs, dans les galeries, sur les cimes. Nous dit-il, il n'y a jamais eu de manifestation ou d'événement autour du livre photographique.
Oui.
Je l'interprète comme un manque d'intérêt fort critiquable, dit le chercheur de l'UQAM.
Oui.
Depuis 10 ans, toutes les manifestations internationales autour de la photo ont des volets livres photographiques. Par exemple, en Espagne, l'année dernière, il y avait 3 expos. Alors pourquoi pas à Montréal, donc c'est un appel. Le livre photographique existe depuis toujours, y compris à l'époque du pionnier William Henry Fox Talbot. Mmh. L'histoire visuelle est jalonnée de bouquins incontournables, tels que les Bibles New York en 1956 de William Klein, un livre magnifique, The Americans de Robert Frank en 58, et Open Passport en 73 du regretté John Max, qui est le meilleur exemple québécois et canadien. Il y a 53 titres qui sont exposés à format jusqu'au 18 octobre.
Oui.
Et par exemple, des petits livres, La quiétude des atomes, 2014. Il y a des petits bijoux véritables, autant visuels que sur le plan l'objet. Je veux dire, ce sont des livres-objets magnifiques. Et autant en contenu, bien entendu.
Est-ce que vous les avez vus? Qu'est-ce qu'il y a comme contenu, justement? S'intéresse à quoi?
Format, l'expo format, je n'ai pas eu le temps d'y aller. Par contre, je connais la librairie. J'ai déjà été dans cette entre du livre photographique. Il y a des journaux, enfin quand je parle le journal de voyage, il y a le carnet de notes photographiques, il y a de tout. Là, par exemple, il y a un film sur le Bhoutan, il y a aussi d'un éditeur Oulala, j'oublie mon micro, désolé.
C'est pas grave.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, il y a... c'est tous les livres photographiques.
Oui, c'est ça.
Je vais pas vous.
Mais est-ce qu'on considère que, par exemple, tantôt, vous allez parler de. Est-ce que c'est Artus, son nom, je me souviens plus, là, celui qui avait fait Vue de la Terre
oui,
et tout
la
ça.
Terre vue du ciel, ouais, mais... c'est Yann Arthus Bertrand. Oui, oui il y est, je crois me rappeler l'avoir vu. Est-ce
parce qu'on est... parle de ça, on parle de ces livres-là.
On est en plein là-dedans.
D'accord.
Okay. Et là, tout à l'heure, je vais vous parler du bouquin. De Michel Hainaut qui a été primé, enfin du bouquin de l'œuvre, qui est post-mégantique.
Donc ça nous concerne, c'est
sur la planète, c'est tous les livres, pas forcément toute la planète, mais en tout cas pour le moins au Québec et en Europe.
D'accord, merci beaucoup, j'ai bien hâte que vous nous en parliez.
Alors, je vous parle rapidement d'une invention, une poussette pour fauteuil roulant.
Oui.
À 16 ans, c'est un jeune homme qui a inventé une poussette pour fauteuil roulant et qui a changé la vie d'une jeune maman qui était paraplégique depuis l'âge de 5 ans.
Oui.
30 ans plus tard, elle attendait son premier enfant. La jeune femme a commencé à se demander comment elle pourrait gérer une poussette seule avec son fauteuil roulant. Par chance, elle a fait la connaissance de ce jeune homme qui s'appelle Alden, un jeune lycéen du College of Yvan, je vais te laisser dire ça. Engineering?
Oui, engineering.
C'est bien.
And Sciences, à Détroit.
Vous êtes bien meilleur que moi, vous inquiétez pas.
Après 6 mois de travail acharné en collaboration avec la dame et sous la direction d'un professeur agrégé en génie mécanique, le prototype est un succès, une sorte de poussette sur 2 roues,
wow,
pouvant se fixer directement au fauteuil sur lequel un siège auto sera installé, pouvant ainsi accueillir le bébé.
Wow.
En toute sécurité. C'est formidable.
Je remarque dans ce que tu dis que le jeune homme, il y a 16 ans quand tu as inventé ça.
Tout à fait.
Exactement.
Donc, c'est un lien avec ton article de ton.
Exactement. Encore un jeune. Oh mon Dieu, vous êtes formidable.
Je sais.
Mon petit Yvan. Ah,
oui.
Pardon. Yvan, allez, on y va avec Yvan, puis okay, on finira avec Christine.
Moi, dans mon domaine météo, on connaît quelqu'un qui passe souvent son temps aux Îles-de-la-Madeleine. Cette personne-là s'appelle Myriam Binette.
Oui.
Et elle produit des météos à tous les jours.
Ah oui?
Oui.
Poétique.
Des météos poétiques.
Ah.
Elle a commencé aux îles, mais elle fait ça maintenant, une météo urbaine. Alors, je vous présente la météo d'aujourd'hui.
OK, allez-y. C'est tellement mignon.
Alors, encore sous l'emprise de la nuit, le ciel matinal prenait des airs romantiques, voilant d'un bleu pourpre la ville encore endormie. Même les néons se faisaient discrets, n'osant briser l'idylle naissante. Le jour a pris son rang, insouciant et beau.
Oh!
C'est magnifique!
Oh, hein, c'est comme une photographie! Mais oui, ça mérite un applaudissement.
Oui,
Christine,
voilà.
Il nous reste 1-2 minutes. Allez-y.
Oui. Mais en fait, je voulais faire une parenthèse par rapport au livre sonore qui peut intéresser bien nos auditeurs.
Oui, oui, oui.
Sachez qu'il y a l'histoire de l'art qui est racontée en livre sonore qu'on peut trouver à la banque, à la grande bibliothèque, nationale, sur la rue Berry. Par exemple, je vais vous citer des titres. Hein. Mm-hmm. Ce n'est pas un livre sur l'histoire de l'art, mais par contre, ça mériterait peut-être quelque chose. Mais ce sont des ouvrages comme « Moyen-Âge et Renaissance » par Carole Thelon Hugon. Donc, vous pouvez trouver cet enregistrement sur CD-ROM. Également, du même auteur, Carole Talon-Hugon, Classicisme et Lumière. Donc, c'est sûr que c'est peut-être un petit peu pointu, entre guillemets, quoique pas sûr, c'est du sonore. C'est toujours plus facile parfois. Également, de cette auteur, L'Antiquité grecque. Donc, c'est très vaste. Et il y a également de Pascal Bonafou sur l'impressionnisme, un enregistrement sonore. Il y a également Les avant-gardes et l'heure moderne de Luc Ferry, donc on connaît cet auteur. Et faut-il brûler l'art contemporain là, pour les subversifs? Ça, c'est Michel Onfray qui s'est prêté au jeu.
Mais est-ce que vous savez, est-ce que c'est via le SQLA, le service québécois du livre adapté? Est-ce que c'est en livre adapté audio ou est-ce que c'est en général du livre audio qu'on peut trouver pour tous les individus? Parce que vous savez, le service québécois du livre adapté, c'est vraiment fait pour les non-voyants.
Là, ce sont des enregistrements sonores. Donc, en fait,
c'est accessible à tout le monde. D'accord.
Moi, je l'ai retrouvé, en fait, je l'ai trouvé dans les répertoires de la grande bibliothèque.
D'accord. Donc, c'est vraiment accessible à tous.
C'est pas seulement pour les gens. C'est un CD-ROM.
D'accord.
Voilà.
Eh bien, mes amis, je vous trouve fort intéressant. Je vous garde encore pour une autre demi-heure. Ça va?
Oui, on reste.
Et on continue avec mes trois collaborateurs que sont Marie, Yvan et Christine. On s'est parlé de tout pendant les deux minutes, mais qui fait quoi? Qui commence? Ah, tout le monde lève la main! Yeah! J'adore cet enthousiasme délirant. Alors, c'est Yvan Deslauriers qui va commencer maintenant.
Oui, et je continue un peu sur mes petites histoires de gens qui ont changé un petit peu leur façon de fonctionner. Et je vous parle d'un jeune homme, Tristan Williams, qui a 25 ans.
Oui.
Mais dans ses mots, son regard, son calme, c'est ceux d'un homme qui a déjà traversé un certain nombre d'épreuves. Il n'avait que 12 ans lorsqu'il a vécu son premier grand défi. C'est un cancer de la thyroïde. Il a subi deux opérations, des traitements de radiothérapie. Après avoir terminé son école secondaire, Tristan s'est inscrit au Collège Vanier. Déterminé à faire des études en affaires. Puis tout allait bien, mais il y avait un petit engourdissement dans les jambes.
Aïe.
Et deux semaines avant de faire sa rentrée au Collège Vanier, le diagnostic est tombé. À 19 ans, il souffrait de sclérose en plaques.
Oh,
mais c'est pas triste. Ben, je veux dire, c'est pas triste.
Oui.
Il a décidé que ça serait pas triste.
Oui.
Alors, d'accord. Il a tenté de conjuguer ses études, les traitements, la douleur, mais au bout de trois sessions, là, ça allait plus. Alors, la maladie prenait le dessus sur ma vie, et il nous raconte. Puis, il a décidé de créer une fondation en 2011. Ça s'appelle la Tristan Williams. Mais Williams, MS à la fin, là. Multiple sclerosis.
OK, d'accord. Oui, bien sûr.
Pour destiner à offrir une communauté de soutien et d'éducation aux jeunes adultes vivant avec cette maladie. Puis il est arrivé d'autres choses. Il a fait une mauvaise chute sur la glace à un moment donné, au moment où il se promenait l'hiver. Ça arrive à Montréal, des fois.
Oui.
Et ça l'a amené à l'hôpital. Sa hanche fracturée. Puis qu'on a découvert que c'était pas juste une fracture. Le cancer qu'il avait eu 10 ans auparavant, il était là. Et il était revenu. Alors là, il dit que j'ai réalisé que j'avais deux choix dans la vie. Faire le plus que je pouvais pour vivre une vie en santé ou prendre l'autre chemin, tomber, puis éventuellement disparaître. Alors, il a choisi la première option. Il s'est fait remplacer la hanche, il a été traité pour son cancer et il a réappris à marcher.
Oh.
Et lorsqu'on lui a annoncé sa guérison en août 2012, là, il s'est lancé corps et âme dans le yoga, la marche rapide et la méditation, tout en tâchant de respecter les limites que ses jambes lui imposaient. Même s'il a dû remplacer sa prothèse parce que là, il y a eu une infection.
Oh,
là, je suis rendu à rire.
Ça va bien, la suite?
Non, ça va bien. Je vous dis, Tristan n'a jamais cessé de bouger. Chaque jour, il fait de la marche rapide près du canal Lachine et au moins quelques mouvements de yoga. Puis il s'entraîne aussi en vue d'une course de bateau-dragon organisée par une fondation. Il dit, « Je pousse mon corps loin, parfois trop loin, mais je n'ai que 25 ans. » Il caresse encore le rêve d'étudier en affaires. Il n'a que 25 ans. Toute la vie devant lui. Alors, la psychologue en performance dont je vous parlais tantôt a dit, « Il faut tenir compte, quand on veut changer quelque chose dans nos vies, il faut tenir compte de ce qu'on préfère. une activité plutôt douce ou plutôt exigeante, une activité de groupe ou une activité individuelle, en plein air ou dans un gym. Une personne qui aime l'eau n'aura pas de plaisir à aller pousser sur
des poids dans un gym.
Alors, il faut vraiment faire quelque chose qui nous
Il faut commencer doucement. Je trouve que le premier cas dont vous nous avez parlé
était
de
plus
cette
extrême,
femme,
hein?
mais elle a commencé doucement.
Oui.
C'est, genre, tu commences par faire le tour du pâté de maison et puis une semaine après, deux pâtés de maison. Et puis, parce que sinon, c'est comme ça que tu développes une blessure
aussi. C'est décourageant
aussi. On ne parle pas du nombre de gens qui se mettent tout d'un coup à faire de la gym puis là, qui se ramassent au bout d'un mois avec une tendinite à droite et à gauche. Je veux dire, il faut pas faire ça n'importe comment. Ça, c'est certain.
Moi,
c'est fascinant. Oui.
Ce qui m'accrochait dans ce dernier cas-là, c'est que cette personne-là a décidé d'aller au bout de ce qu'il pouvait faire.
Ah oui, oui, oui. Moi, c'est vraiment épatant. Merci beaucoup, Yvan. Marie, on va parler de jardin zoologique dans quelques minutes.
Tout à fait. Alors, des jardins zoologiques en 2015, pourquoi?
Oui.
C'est un texte de Jacques Dancos, qui est vétérinaire et conseiller scientifique au Biodôme de Montréal, qui a été publié le 24 septembre sur le site Espace pour la vie. Les collections animales ont bien évolué depuis le 18e siècle. Autrefois, on collectionnait les espèces dans des ménageries. On capturait des animaux en milieu naturel pour ensuite les exhiber dans des cages étroites et vides. Souvent isolées, l'animal était exposé à la manière d'un vase dans un musée. Son espérance de vie était courte et on le remplaçait au besoin. C'était un objet d'amusement, voire d'émerveillement.
Exactement, d'ailleurs, comme pour les humains. Je veux dire, on mettait la femme à barbe, des cages. Je veux dire, c'était le même principe. Hein. Tout ce qui était différent, on mettait les noirs.
Oui,
les premiers noirs qu'on a vus.
Comme des curiosités.
Comme des curiosités aussi, oui, c'est sûr.
Ouais, alors, on traite mieux les objets dans les musées maintenant, finalement. Le milieu du 20e siècle marque un changement. Les zoos muent se transforment. Ils deviennent des parcs animaliers où les animaux sont gardés dans des enclos plus vastes, avec de la végétation, où leur mode de vie est mieux respecté, à tout le moins du point de vue social et alimentaire. Mais les zoos font l'acquisition d'animaux pour un public prêt à payer pour satisfaire sa curiosité, son goût du beau et de l'exotisme. Les grandes espèces, on parle des éléphants, les rhinocéros, les girafes, on la cote. Dans les années 70, on commence à parler de la sixième extinction d'espèces sur Terre, due essentiellement à notre propre prolifération. C'est nous, ça, les responsables de ça. Mm. CITES voit le jour. Qu'est-ce que c'est CITES? C'est une convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction. On va dire CITES, c'est moins long.
Oui,
moins
bien
long.
Sûr, bien sûr.
Et cette convention-là a été rédigée à Washington. Et elle régit les échanges entre les pays qui y adhèrent. C'est une porte ouverte pour les zoos qui s'impliquent alors dans la sauvegarde de ces espèces. Durant les années 80, on crée des programmes afin d'organiser la reproduction en captivité et de gérer la génétique pour éviter la consanguinité. On a créé des monstres, finalement. Mm-hmm. Tout zoo qui se respecte aujourd'hui.
Excusez-moi, Marie, mais même chez nos chiens.
Tout à fait.
Vous savez que la plupart des maladies qu'on a créées, c'est parce que l'homme, encore une fois, a voulu tout d'un coup créer des chiens plus hauts sur pattes, plus gros, plus machin. Je prends le bouvier bernois, qui est souvent un chien énorme. Au départ, si vous allez en Suisse, parce que ça vient de Suisse, le bouvier bernois est un chien de taille moyenne. C'est parce qu'on l'a croisé avec Saint-Bernard et compagnie, on a créé une marque. Et c'est pour ça qu'il ressemble à une espèce de Saint-Bernard, mais avec plus de noir que de... Mais au départ, le bouvier bernois n'est pas un chien et...
Oui, en fait.
Mais en tout cas,
organismes génétiquement modifiés.
Oui,
finalement.
C'est ça. Oui.
C'est tout à fait ça.
Cela étant dit, dans la nature,
il y a ça aussi.
Ils copulent entre eux. Hein.
Oui.
Bon,
mais ils ne sont pas dans un espace contrôlé.
Non, puis au moins, ce n'est pas la main de l'homme.
Voilà. Aujourd'hui, donc, tout zoo qui se respecte a une mission de conservation.
Oui, c'est ça.
Pour une ou plusieurs espèces, en plus d'une mission éducative et de recherche. L'argent généré, parce qu'on paie pour aller au zoo, est investi dans la protection de l'aire de répartition en nature de l'espèce. Même si peu de zoos arrivent à réaliser cet idéal, plusieurs y travaillent. Les vraies réussites de réintroduction existent, parce que c'est ce qu'on vise dans ces programmes-là, mais elles sont encore limitées. Certains établissements travaillent désormais avec des espèces animales moins spectaculaires, mais écologiquement plus essentielles et fortement menacées dans leur milieu, comme les amphibiens, on parlait de la rainette faugrillon la semaine dernière, et les insectes. Les zoos sont donc sous haute surveillance et les établissements sérieux participent à des programmes d'accréditation qui établissent des standards de qualité pour leurs programmes de garde en captivité, d'éducation, de recherche et de conservation. En sensibilisant le public au sort d'espèces parfois méconnues, les zoos peuvent jouer un rôle important dans leur survie et dans celle de leur habitat naturel. Le zoo est un outil important de conscientisation, mais il n'est pas le seul. En étant mieux informés et en développant une curiosité plus vive pour le monde animal et végétal, nous pouvons tous aider à préserver la faune et la flore de notre planète, et nous faisons tous partie de la solution. Puis je voudrais souligner l'importance de ce que Espace pour la vie fait à Montréal.
Oui.
Jardin botanique, l'insectarium,
le biodôme, le
planétarium. Tout cet espace-là va dans ce sens-là.
Oui, oui, oui.
Voilà.
La seule chose qui reste encore peut-être à corriger, ce sont les cirques. Hein? J'ai un peu de mal avec ça.
Ouais.
Mais, il paraît que c'est mieux quand même. Là,
mais l'orientation des cirques comme le Cirque du Soleil, par exemple, sans animaux, était vraiment un peu dans cette
direction. Oui, absolument. Non, moi, c'est sûr que je ne parle évidemment pas, mais il y a encore malheureusement une utilisation de singes et chiens savants et autres lions. Et je ne peux pas croire qu'ils vivent dans des conditions idéales, mais bon, en tout cas, de quoi je me mêle. Christine.
Eh bien, c'est toujours le mois de la photo jusqu'au 11 octobre, hein, je le rappelle, hein, pour les amateurs, pour les passionnés.
Et c'est pour ça d'ailleurs, si on ouvre une parenthèse, que vous nous en parlez là aujourd'hui beaucoup, parce que c'est vraiment d'actualité.
On est en plein
là,
dedans.
On est dedans.
Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a effectivement une concordance, une parfaite harmonie, synchronisme entre ce qui se passe sur la planète, au niveau de la photographie, et aussi donc avec ce mois de la photo à Montréal. Et on va faire un cocorico québécois, si je peux me permettre. Le photographe Michel Huneau, qui est né en 76, qui est donc montréalais, et il remporte un prix prestigieux qui est lequel ? C'est le prix Dorothée Lange Paul Taylor, c'est-à-dire un prix qui vise à encourager les photographes dans la voie documentaire.
OK.
Or, actuellement, ça ne manque pas, les sujets, à tout point de vue. Mm-hmm. Et ce prix a été créé en 90 aux États-Unis. Mm-hmm. Il est assorti de 10 000 $, ce qui n'est pas rien. Et il a été reconnu il a reçu ce prix pour son travail qui s'appelle Post-Mégantique.
Oh.
Donc on se souvient de la catastrophe. Elle est très, très, très en mémoire, bien entendu. Oui. Le photographe est arrivé à la commande Mégantique quelques heures après l'explosion du 6 juillet. Il est retourné une vingtaine de fois en 2 ans. C'est un projet qui incorpore plusieurs médias, dont la vidéo, dans la photographie, des interactions, et qui vise à rendre la douleur de la catastrophe et à recréer la mémoire collective.
Ouais.
Ce qui est tout un travail de deuil, comme il explique. J'ai compris à Mégantique que l'évolution du deuil n'est pas linéaire. Il fluctue constamment entre des hauts et des bas, entre noirceur et pointe de lumière, selon les autres événements qui affectent aussi nos vies. C'est ce que nous rapporte... c'est rapporté dans le journal du Devoir du 23 septembre.
D'accord.
Et ce prix, d'ailleurs, il va lui permettre de poursuivre son travail de longue haleine qui se passe à Mégantique sur la région japonaise de Tohoku. Qu'est-ce qui s'est passé à Tohoku ? On se souvient du fameux du tsunami, de la triple catastrophe nucléaire, écologique, catastrophique. Et il va poursuivre son travail là-bas avec ce travail de mémoire. Alors, c'est quoi son travail post-mégantique? C'est 47 résidents qui sont malheureusement morts, avec beaucoup de personnes qui se retrouvent sans rien. Mm-hmm. Il y a une vidéo d'abord.
Je dirais 48, hein, parce que vous savez qu'il y a un jeune homme qui s'est suicidé il y a quelques semaines, qui était celui qui chantait, qui était un chansonnier. Malheureusement, j'ai oublié son nom, pardon. Mm. Et il est sorti pour fumer. Et c'est le fait d'être sorti fumer une cigarette qui lui a sauvé la vie. Et finalement, il n'a jamais supporté le fait de s'en attirer. Il s'est suicidé il y a quelques semaines. C'est pour ça que maintenant, je dis toujours 48.
48, c'est vrai.
Parce que, oui.
Et c'est, ça que, c'est pour ça aussi, je pense que ce travail s'inscrit dans une mémoire collective, dans une... Il y a un aspect psychologique.
Absolument.
Et d'accompagnement indirect par cette forme d'art. La longue nuit, 2013-2014, c'est une vidéo. Elle porte sur l'évolution du deuil et du traumatisme donc vécu à Lac-Mégantic, vu sous l'angle de la nuit, au moment de la journée où l'incident revenait hanter un large nombre des Méganticois que j'ai rencontrés, dit-il. La longue nuit est aussi à propos de l'obscurité informationnelle, parce qu'effectivement, il y a eu pas une rétention, mais l'information ne pouvait pas circuler, elle continue, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, que les autorités ne peuvent pas dire. De la même façon qu'il y a aussi un mur qui fait partie de l'œuvre, enfin, c'est un panorama composite qui présente la clôture de sécurité qui sépare les Mégantiquois de la zone rouge, la fameuse zone interdite.
Oui.
Il est effectué lors des semaines ayant suivi le 6 juillet. Enfin, un résultat interactif qui, composé de 132 photographies qui sont assemblées, présente l'état du centre-ville au 13 août 2013. Et ça, c'est l'épicentre. Alors qu'il devenait évident, dit-il, que ni les citoyens, ni les journalistes, je lis, n'auraient accès au site de l'incident pendant plusieurs mois, sinon années, car interdit par les autorités, on me demanda d'effectuer un gigapan pour saisir l'ampleur de la zone rouge. Alors le gigapan, pardonnez-moi, je ne suis pas encore allée voir, je vais vous en parler plus tard, mais j'imagine que c'est tout un travail qui est visuel, ou
un montage
qu'il a dû, giga de façon signifie aussi
énorme.
Dimension, énormité, ben, disons peut-être in situ, à grandeur. Et je serais très curieuse de vous en reparler une autre fois.
Mais c'est présenté où, ça? Où est-ce qu'on peut voir toutes ces photos-là?
C'est un travail post-mégantiste, c'est un travail qui a été déjà exposé. C'est tout frais, cet article, je vous le cache pas. C'est d'autant plus frais que ce matin, je suis tombée sur un autre article qui nous parle de Michel Huneau, toujours, et dont je vais vous parler la semaine prochaine, parce qu'il y a un photoreportage. Ça parle du travail Occident Express, et là, on parle du tracé des migrations en Europe actuelle.
Ok, d'accord.
On est en plein documentaire.
Et puis, vous savez, je trouve ça vraiment intéressant, ce dont vous venez de nous parler, Christine. J'ai vu un documentaire extraordinaire il y a quelques semaines sur TV5 sur les quelques photos qui ont été prises après Hiroshima. Il y a un photographe qui a été capable, mais vraiment, lorsque les gens se sont réveillés, brûlés, mais encore vivants pour certains, on ne parle pas évidemment... Et ce type-là avait l'habitude de faire des photos. D'ailleurs, il a été à l'époque décrié. On a dit, mais enfin, c'est un voyeur et c'est
il
dégueulasse.
Oui,
sauf que ce sont les seules photos qui nous restent.
Ce sont les seuls témoignages.
Ça rejoint un petit peu ce dont vous nous parlez.
Toujours la question que se pose le photographe reporter, mais
c'est
il ne la pose plus parce qu'il est dans l'action.
Exactement.
Et je pense que c'est un point de vue à défendre.
Merci beaucoup, Christine. C'est superbe. Yvan.
Alors, Clotilde, je vais te parler de Piqué. Pas longtemps, mais je vais t'en parler.
Oui, nous en parler. Monsieur, non, mais c'est... moi, j'apprécie le bonhomme.
Oui. C'est un article. Je vous transmets seulement un petit morceau d'un article qui a été écrit par Pierre-Yves McSween. J'aime beaucoup Pierre-Yves McSween parce qu'il est capable de vulgariser des éléments d'économie ou de fiscalité.
Où est-ce qu'il écrit, ce monsieur?
Ça, c'est dans le blog de Journal Voir.
D'accord.
Mais on peut l'écouter aussi dans les postes de radio 98.5, entre autres. Il était à Radio-Canada l'année dernière.
Oui. D'accord.
Avec Joël Lebigot. Il sévissait avec Joël Lebigot.
OK.
Et dans cet article sur Piqué-Souban, je retire juste une portion, finalement. Puis, on est au mois d'octobre maintenant, aujourd'hui, c'est le premier. Et quand je travaillais, c'était le mois souvent où on nous demandait, est-ce que vous voulez donner pour Centraide? C'était le temps de la charité. Alors, la portion sociale du don de Piqué-Souban, qui a donné 10 millions de dollars à un hôpital pour enfants, fiscalement, il n'y a pas que Piqué-Souban qui a un avantage fiscal lorsqu'il fait un don.
Ah, OK.
Nous en avons tous un comme société. À chaque fois qu'on fait un don à un organisme enregistré pour les reçus de charité, on contribue à diriger les fonds publics vers cet organisme-là aussi. La différence entre Piquet-Souban et le commun des mortels, c'est la valeur du don et l'exposition médiatique.
Oui, bien sûr.
Mais quand on décide de donner un peu de son argent ou un peu de son temps à un organisme, c'est cet organisme-là qui en bénéficie.
Bien sûr.
Et par effet domino, c'est toute la société qui en bénéficie. Dans ce cas ici, c'est l'hôpital pour enfants qui va pouvoir offrir des services plus grands avec ce don-là. Puis piquer, c'est tous des mots qui se ressemblent, aurait pu garder cet argent-là puis se construire une structure fiscale pour sauver de l'argent. Lui, il a décidé de la remettre en partie.
Ah, il aurait pu mettre ça aussi aux îles Caïmans, comme beaucoup d'autres le font, des centaines de milliers de dollars, qui n'iront d'ailleurs jamais en prison.
Alors, je voulais juste faire réaliser que... Je voulais juste faire réaliser que quand on fait un don, il y a une partie de ce don-là qui... On a des crédits d'impôt qui nous reviennent. Mais c'est la société qui donne à cet organisme-là, à ce moment-là.
Exactement. Merci, Yvan. Je vais avoir ce matin, dans Le Devoir, j'ai quelque chose à vous lire, Yvan, qui va vous intéresser.
Sûrement.
Saviez-vous, cher Yvan, et vous toutes et vous tous, qu'il y a eu un débat organisé par Le Devoir sur la cohabitation entre auto et vélo? Et c'est un débat qui a suscité évidemment de vifs échanges, comme on peut s'en douter. C'était hier à Québec. Dans le panel, je regarde, il y avait l'animateur du débat, c'était l'éditorialiste du Devoir, Antoine Robitaille. Il y avait Étienne Grandmont, Pierre Michaud, Philippe Saint-Pierre et le chroniqueur David Desjardins, entouré d'Yvan Deslauriers et Marie Lalonde. Non, ça c'est pas vrai.
On aurait aimé ça.
On était occupés à trop autre chose.
Alors, je vais vous dire un petit peu ce qui s'est dit. Le journaliste auto Pierre Michaud, journaliste auto, on s'entend, a vite lancé qu'il ne fallait pas encombrer un réseau routier déjà surchargé. Il a dit « il y a trop de monde sur le réseau ». Il a rappelé que le nombre d'automobiles augmentait beaucoup plus vite que les routes. Et il a dit « les pistes cyclables me semblent la solution la plus logique ». Le chroniqueur David Desjardins, représentant assumé du clan vélo, a répondu qu'on ne pouvait pas compter que sur les infrastructures. Il a dit « il y a un énorme problème d'agressivité sur les routes ». Il a aussi souligné que les projets de pistes cyclables à Québec se butaient souvent à une forte opposition. Apparemment, ce n'est pas aussi facile là-bas qu'à Montréal, entre autres, ou dans d'autres pays de la province. Il y a Étienne Grandmont, qui lui est représentant d'Accès Transport Viable, qui s'est dit d'accord tout à fait avec M. Michaud sur le rôle crucial des infrastructures, mais en désaccord quant au port obligatoire du casque, parce que, a-t-il dit, cela découragerait sans cesse les gens de faire du vélo. Et est-ce que ça permettrait de réduire le nombre d'accidents? Pas sûr. Quoique Philippe Saint-Pierre, qui est le quatrième invité, lui, il trouve que oui, ça permettrait d'éviter au moins les accidents mortels. Il dit, entre autres, souvenez-vous, lorsqu'on a rendu la ceinture de sécurité obligatoire, on a descendu énormément le pourcentage de mortalité sur les routes suite aux accidents de voiture. Bref, ça a été, il paraît, très, 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 très mouvementé. Bon, c'est sûr, on n'a pas refait le monde, on n'est pas sorti de là en se disant « youpi, on a trouvé des solutions ». Il a aussi été beaucoup question de civisme. On en parlait la semaine dernière. Et on sait que les cyclistes ne sont pas les seuls à être blâmés, les automobilistes aussi. Puis comme on se le disait d'ailleurs, il en a été question dans ce débat. Il y a des gens qui de toute façon manquent de civisme dans toutes les sphères de leur vie, alors qu'ils soient au volant ou au guidon.
Ou à pied,
ce sera toujours la même chose. Un mot d'enfant.
Oui.
On veut un mot d'enfant.
Trois mots d'enfant cette fois-ci. Alors, pour aller avec le thème, zoo. Qu'est-ce que Zoé nous a dit de zoo?
Oui.
C'est un hôtel pour les races d'animaux qu'on ne peut pas avoir à la maison.
Ah oui, adorable.
Ce que Cassandra, 6 ans, dit de girafe, c'est un animal qui a de grosses taches de rousseur partout, même dans le cou. Et ce que Jordan, 7 ans, nous dit du hérisson, rongeur de la famille des piquants.
Ça, là, quand vous voulez, Marie, quand vous voulez. Christine.
Oh, un autre cocorico.
Ah oui?
FIAC, au Grand Palais, à Paris, du 22 au 25 octobre. Bon, vous avez peut-être encore le temps de prendre un billet d'avion.
Bah pour, oui, hein, non, mais on ne sait
pour
jamais.
Pour les Québécois qui sont en vacances là-bas.
Quelle date encore?
Pour la première fois, le Canada est représenté donc à la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain, du 22 au 25 octobre. C'est très court. Et surtout, le Canada, quand je parle du Canada, on parle du Québec. Montréal, c'est la galerie Lando Fine Art qui est représentée là-bas avec des œuvres notamment de Picasso,
oui,
de Jean Miraud, etc. Voilà.
Merci. Musique, monsieur Rémy, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Moi, j'ai une petite brève pour vous. Je vous préviens, ça n'a rien à voir ni avec la photo, ni avec le vélo, ni avec les enfants, mais c'est bien intéressant. C'est dans Le Devoir, figurez-vous, que des chercheurs canadiens ont découvert le rôle déterminant de quatre types de bactéries de la flore intestinale des nourrissons dans l'apparition de l'asthme. Leur étude, qui est publiée dans la revue, là, Science Translational Medicine,
bravo.
Oui, c'est,
hein,
ça,
c'est pas
ça.
Si mal. Montre aussi que l'administration de ces mêmes bactéries à des bébés prédisposés à cette maladie pourrait vraisemblablement prévenir son développement. Alors, c'est à suivre et c'est une très bonne nouvelle. Christine, des petits rappels?
Des rappels. Bah, le rappel, en fait, donc n'oubliez pas, la librairie Format jusqu'au 18 octobre, ce sont surtout aussi des livres à compte d'auteur. Donc, c'est une manière d'encourager la production. Et ça exclut, parce que pour répondre à Clotilde tout à l'heure, le catalogue d'exposition, la monographie, le livre illustré. Et il y a du livre québécois, donc allez-y. Et l'autre chose aussi, je vous parlerai de Yann Arthus-Bertrand la semaine prochaine, parce que de toute façon, c'est une projection planétaire, donc on va tous y avoir droit.
Exactement.
Et la dernière chose, donc, je vous parlerai également du reportage de Michel Huneau qui, sur migration en Europe, on est dans l'actualité, la semaine prochaine.
Super. Êtes-vous amateur de vin?
Oui.
Hein? Oh! Ça a été tout de suite
spontané.
Oh ben oui. Savez-vous que 65 vins provenant des quatre principales régions vinicoles des États-Unis contiennent tous, sauf un, des quantités d'arsenic qui surpassent ce qui est toléré dans l'eau potable? Ça a l'air de vous agacer beaucoup, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Puis ça, c'est beaucoup plus dangereux, l'arsenic, que les sulfites et autres.
Oui.
Parce que vous savez que les sulfites, c'est obligatoire.
Oui, pour les transports.
Pour les transports. Alors ça, de toute façon... Bon, enfin bon, j'avais juste envie de vous dire que les vins américains contiennent des quantités excessives d'arsenic. Vous en faites ce que vous voulez, mais... c'était le vin préféré de Lucrèce Borgia.
T'as aucun parti pris quand tu dis ça,
pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Yvan,
alors,
une minute.
Une minute rapide, OK. Il y a quatre types de cyclistes montréalais.
Eh bien, c'est fini. Non, c'est pas vrai.
Selon un groupe de recherche sur le transport de l'Université McGill, quatre forfaits robots. Il y a 36% que c'est des adeptes. C'est ceux qui apprécient le plaisir de rouler, en plus du côté pratique. Il y a 24% que c'est des dévoués parce que pour le déplacement. 23% pour le côté utilitaire, quand les conditions sont bonnes. Puis il y en a 17%, c'est juste pour le loisir. Ils ont un petit vélo,
c'est
une fois de temps en temps.
Oui.
Et pour ceux qui font tout?
Oui. Moi,
c'est les passionnés.
Oui, moi, c'est tablette, voyez-vous. Moi, j'ai un petit vélo dans ma vitrine. Là,
moi, j'en ai un pour l'épicerie, puis l'autre pour le plein air.
Oh, mais bravo. Catherine, Christine Boucard, Yvan Deslauriers, Marie Lalande, c'est toujours un bonheur de vous retrouver tous les jeudis. J'espère que c'est partagé.
C'est juste propre.
Oui,
voilà.
Tout à fait.
Et puis aussi par l'ensemble des 3 millions de personnes qui nous écoutent. Donc, à la semaine prochaine.
Et qu'on salue.
Au revoir tout le monde.
Bye.